4, 16. Coup d'œil en arrière. Louis Bonaparte avait essayé la majorité comme on essaie un pont. Il l'avait chargé d'iniquité, d'empiètement, d'énormité. Assommade de la place du Havre, cri de « Vive l'empereur !» Distribution d'argent aux troupes, vente dans les rues des journaux bonapartistes, prohibition des journaux républicains et parlementaires, revue de Satory, discours de Dijon. La majorité porta tout. « Bon, dit-il, le coup d'État passera dessus. » Qu'on se rappelle les faits. Avant le 2 décembre, le coup d'État se faisait en détail, ça et là, un peu partout, assez effrontément, et la majorité souriait. Le représentant Pascal Duprat était violenté par les agents de police. « C'est très drôle, disait la droite. Le représentant d'un était empoigné. Charmant. Le représentant Sartin était arrêté. Bravo. Un beau matin, quand toutes les charnières furent bien essayées et graissées, quand tous les fils furent bien attachés, le coup d'État s'exécuta en bloc, brusquement. La majorité cessa de rire, mais le tour était fait. Elle ne s'apercevait pas que depuis longtemps, pendant qu'elle riait de l'étranglement d'autrui, elle avait la corde au cou. Insistons sur ceci, non pour punir le passé, mais pour éclairer l'avenir. Bien des mois avant d'être exécuté, le coup d'État était fait. Le jour venu, l'heure sonnait, la mécanique toute montée n'eut qu'à marcher. Rien ne devait manquer et rien ne manqua. Ce qui aurait été un abîme si la majorité eût fait son devoir et compris sa solidarité avec la gauche n'était pas même une enjambée. L'inviolabilité avait été démolie par les inviolables. La main des gendarmes était accoutumée au collet des représentants comme au collet des voleurs. La cravate des hommes d'État ne fit pas un pli dans la poigne des argousins, et l'on put admirer M. le vicomte de Falloux. Ô candeur, s'ébahissant d'être traité comme le citoyen Sartin, la majorité arriva à reculons, en applaudissant toujours Bonaparte, au trou où Bonaparte la fit tomber. 4.17. Conduite de la gauche. La conduite de la gauche républicaine, dans cette grave conjoncture du 2 décembre, fut mémorable. Le drapeau de la loi était à terre, dans la boue d'une trahison universelle sous les pieds de Louis Bonaparte. La gauche releva ce drapeau, lava cette boue avec son sang, le déploya, l'agita aux yeux du peuple, et du 2 au 5 décembre tint Bonaparte en échec. Quelques hommes, une poignée, 120 représentants du peuple, échappés au hasard des arrestations, plongés dans les ténèbres et le silence, sans même avoir pour eux ce cri de la presse libre qui sonne le tocsin des intelligences et qui encourage les combattants sans généraux à leurs ordres, sans soldats, sans fusils, sans munitions, descendirent dans la rue, barrèrent résolument passage au coup d'État et livrèrent bataille à ce crime monstrueux qui avait pris toutes ses précautions, cuirassé de toutes parts, armé jusqu'aux dents, épaississant à volonté autour de lui les forêts de baïonnettes, faisant aboyer une meute d'obusiers et de canons. On eut la présence d'esprit, qui est l'intrépidité efficace. On eut, tout manquant, l'improvisation formidable du devoir jamais décontenancé. On n'avait pas d'imprimerie, on en eut. On n'avait pas de fusil, on en trouva. On n'avait pas de balles, on en fondit. On n'avait pas de poudre, on en fabriqua. On n'avait rien que des pavés, et l'on en fit sortir des combattants. Il est vrai que ces pavés étaient de Paris, pierres qui se changent en hommes. Telle est la puissance du droit que, pendant 4 jours, ces 120 hommes, n'ayant pour eux que la bonté de leur cause, firent contrepoids à une armée de 100 000 soldats. Un moment même, la balance pencha de leur côté. Grâce à eux, grâce à leur résistance secondée par l'indignation des cœurs honnêtes, il vint une heure où la victoire de la loi sembla possible, et même certaine. Le jeudi 4, le coup d'État chancela et fut obligé de s'appuyer sur l'assassinat. On l'a vu, sans la tuerie des boulevards, s'il n'avait pas sauvé son parjure par un massacre, s'il n'avait pas réfugié son crime dans un autre crime. Louis Bonaparte était perdu. Pendant les longues heures de cette lutte, lutte sans trêve, lutte contre l'armée le jour et contre la police la nuit, lutte inégale où toute la force était d'un côté et toute la rage, et nous venons de le dire, rien que le droit de l'autre, pas un de ces 120 représentants, pas un ne manqua à l'appel du devoir, pas un ne refusa le danger, pas un ne recula, pas un ne faiblit. Toutes ces têtes se placèrent résolument sous le couperet, et 4 jours durant attendirent qu'il tombât. Aujourd'hui, captivité, déportation, expatriation, exil. Le couperet est tombé à peu près sur toutes ses têtes. Je suis de ceux qui n'ont eu d'autre mérite dans cette lutte que de rallier à une pensée unique le courage de tous. Mais qu'il me soit permis de rendre ici justice avec effusion à ces hommes parmi lesquels je m'honore d'avoir servi 3 ans la sainte cause du progrès humain, à cette gauche insultée, calomniée, méconnue et intrépide, qui fut toujours sur la brèche, qui ne se reposa pas un jour, qui ne recula pas plus devant la conspiration militaire que devant la conspiration parlementaire, et qui, investi par le peuple du mandat de le défendit même quand il s'abandonna, le défendit à la tribune avec la parole et dans la rue avec l'épée. Quand le comité de résistance, dans la séance où fut rédigé et voté le décret de déchéance et de mise hors la loi, usant du pouvoir discrétionnaire que la gauche lui avait confié, décida que toutes les signatures des représentants républicains restaient libres seraient apposées au bas du décret, ce fut un acte hardi. Le comité ne se dissimula point que c'était là une liste de proscriptions qu'il offrait au coup d'État vainqueur, toute dressée. Et peut-être, dans son fort intérieur, craignait-il que quelques-uns ne la désavouassent et ne réclamassent. Le lendemain, nous reçûmes 2 lettres, en effet, 2 plaintes. C'étaient 2 représentants qui avaient été omis sur la liste et qui réclamaient l'honneur d'y être rétablis. Ces 2 représentants, je les rétablis ici, en effet, dans leur droit d'être proscrits. Voici leurs noms, Anglade et Pradier. Du mardi 2 au vendredi 5 décembre, les représentants de la gauche et le comité, épiés, harcelés, traqués, toujours au moment d'être découverts et pris, c'est-à-dire massacrés, se transportèrent pour y délibérer dans 27 maisons différentes, déplacèrent 27 fois le lieu de leur séance, depuis leur première réunion rue Blanche jusqu'à leur dernière conférence chez Raymond. Ils refusèrent les asiles qu'on leur offrait sur la rive gauche, voulant toujours rester au centre du combat. Dans ces déplacements, ils traversèrent plus d'une fois le Paris de la rive droite d'un bout à l'autre, la plupart du temps à pied et faisant des détours pour n'être pas suivis. Tout était péril pour eux, leur nombre, leur figure connue, leurs précautions même. Les rues populeuses, danger, la police y était en permanence. Les rues désertes, danger, les allées et venues y étaient plus remarquées. On ne dormait pas, on ne mangeait pas, on prenait ce qu'on trouvait, un verre d'eau de temps en temps, un morceau de pain çà et là. Madame Landrin nous donna un bouillon, Madame Grévy un reste de pâté froid. Nous vécûmes un soir d'un peu de chocolat qu'un pharmacien avait fait distribuer dans une barricade. Chez Jeunesse, rue de Gramont, dans la nuit du 3, Michel de Bourges prenait une chaise et disait « Voilà mon lit ». Était-on fatigué? On ne le sentait pas. Les vieux comme Rongeat, les malades comme Boisset, tous marchaient. Le péril public, cette fièvre, les soutenait. Notre collègue vénérable Lamennais ne vint pas, mais il resta les 3 jours sans se coucher, boutonné dans sa vieille redingote, ses gros souliers aux pieds, prêt à marcher. Il écrivait à l'auteur de ce livre ces trois lignes qu'il est impossible de ne pas citer. Vous êtes des héros sans moi. J'en souffre. J'attends vos ordres. Tâchez donc de m'employer à quelque chose, ne fût-ce qu'à mourir. » Dans les réunions, chacun était comme d'habitude. On eût dit par moments une séance ordinaire dans un des bureaux de l'Assemblée. C'était le calme de tous les jours, mêlé à la fermeté des crises suprêmes. Edgar Quinet avait toute sa haute raison, Noël Parfait toute sa vivacité d'esprit, Yvan toute sa pénétration vigoureuse et intelligente, Labrousse toute sa verve. Dans un coin, Pierre Lefranc, pamphlétaire et chansonnier, mais pamphlétaire comme Courrier et chansonnier comme Béranger, souriait aux graves et sévères paroles de Dupont de Bussac. Tout ce groupe si brillant des jeunes orateurs de la gauche, Bancel avec sa fougue puissante, Versigny et Victor Chauffour avec leur intrépidité juvénile, Saint avec son sang-froid qui révèle la force, Farconnet avec sa voix douce et son inspiration énergique, se prodiguaient pour la résistance au coup d'État, tantôt dans les délibérations, tantôt parmi le peuple, prouvant que pour être orateur, il faut avoir toutes les qualités de combat. De Flotte, infatigable, était toujours prêt à parcourir tout Paris. Xavier Durieux était brave, Dulac, intrépide, Charamol, téméraire. Citoyens et paladins, du courage, qui eût osé n'en pas avoir parmi tous ces hommes dont pas un ne tremblait. Barbes incultes, habits défaits, cheveux en désordre, visage pâle, fierté dans tous les yeux. Dans les maisons où l'on était accueilli, on s'installait comme on pouvait. Il n'y avait pas de fauteuil ou de chaise. Quelques-uns, épuisés de force mais non de cœur, s'asseyaient à terre. Pour les décrets et les proclamations, tous se faisaient copistes. Un dictait, 10 écrivaient. On écrivait sur les tables, sur les coins des meubles, sur ses genoux. Souvent le papier manquait, les plumes manquaient. Ces misères créaient des obstacles dans les heures les plus critiques. À telle minute donnée, dans l'histoire des peuples, un encrier dont l'encre est desséchée peut être une calamité publique. Du reste, cordialité entre tous, toutes les nuances effacées. Dans les séances secrètes du comité, Madier de Mongeau, ce ferme et généreux cœur, De Flotte, vaillant et profond, philosophe combattant de la Révolution, Carnot, correct, froid, tranquille, inébranlable, Jules Favre, éloquent, courageux, admirable de simplicité et de force, inépuisable en ressources comme en sarcasme, doublait, en les combinant, les puissances si diverses de leurs esprits. Michel de Bourges, assis dans un coin de la cheminée, ou accoudé sur une table, enveloppé dans son grand paletot, son bonnet de soie noire sur la tête, donnait la réplique à toutes les idées, rendait aux événements coup pour coup, parait au péril, à l'incident, à l'occasion, à la nécessité. Car c'est une de ces opulentes natures qui ont toujours quelque chose de près, soit dans leur intelligence, soit dans leur imagination. Les conseils se croisaient sans se heurter. Ces hommes ne se faisaient aucune illusion. Ils savaient dans quelle lutte à outrance ils étaient entrés. Nul quartier à attendre. Ils avaient affaire à l'homme qui avait dit « écrasez tout ». Ils connaissaient les paroles sanglantes du soi-disant ministre Morny. Ces paroles, les affiches de Saint-Arnaud les traduisaient en décrets. Les prétoriens lâchés dans la rue les traduisaient en meurtres. Les membres du comité d'insurrection et les représentants assistant aux réunions n'ignoraient pas que partout où ils seraient pris, ils seraient tués sur place à coups de baïonnette. C'était la chance de cette guerre. Ce qui dominait sur tous les visages, c'était la sérénité, cette sérénité profonde qui vient de la conscience heureuse. Par moments, cette sérénité arrivait jusqu'à la gaieté. On riait volontiers, et de tout, du pantalon déchiré de celui-ci, du chapeau que celui-là avait rapporté d'une barricade à la place du sien, du cache-nez de cet autre. « Cachez donc votre grande taille, » lui disait-on. On était des enfants, et tout amusait. Le matin du 4, Mathieu de la Drôme entra. Il avait organisé de son côté un comité qui communiquait avec le comité central. Il venait nous l'annoncer. Il avait rasé son collier de barbe pour n'être pas reconnu dans les rues. « Vous avez l'air d'un archevêque !» lui cria Michel de Bourges, et ce fut un rire universel. Et tout cela avec cette pensée que chaque instant ramenait, le bruit qui se fait à la porte, cette clé qui tourne dans la serrure. C'est peut-être la mort qui entre. Les représentants et le comité étaient à la discrétion d'un hasard. Plus d'une fois ils purent être saisis, et ils ne le furent pas, soit que certains agents de la police eussent des scrupules, ou diable le scrupule, va-t-il se nicher, soit que ces agents doutassent du résultat final, et craignissent de mettre étourdiment la main sur les vainqueurs possibles. Si le commissaire de police Vassal, qui nous rencontra le matin du 4 sur le trottoir de la rue des Moulins, l'avait voulu, nous étions pris ce jour-là. Il ne nous trahit pas. Mais c'était là des exceptions. La poursuite de la police n'en était pas moins ardente et acharnée. Chez Marie, on s'en souvient, les sergents de ville et les gendarmes mobiles arrivèrent 10 minutes après que nous avions évacué la maison et fouillèrent jusque sous les lits à coups de baïonnette. Parmi les représentants, il y avait plusieurs constituants et à leur tête Bastide. Bastide, en 1848, avait été ministre des Affaires étrangères. Dans la deuxième réunion nocturne de la rue Popincourt, on lui reprochait plusieurs de ses actes. « Laissez-moi d'abord me faire tuer, » répondit-il. « Ensuite, vous me reprocherez ce que vous voudrez. » Et il ajouta, « Comment pouvez-vous vous défier de moi qui suis républicain jusqu'au poignard ?» Bastide ne consentait pas à appeler notre résistance l'insurrection. Il l'appelait la contre-insurrection. Il disait, « Victor Hugo a raison, c'est à l'Élysée qu'elle insurgée. » J'étais d'avis, on le sait, de brusquer la bataille. De ne rien différer, de ne rien réserver. Je disais, « Il faut battre le coup d'État quand il est chaud. » Bastide m'appuyait. Dans le combat, il fut impassible, froid, gai sous sa froideur. À la barricade Saint-Antoine, au moment où les fusils du coup d'État couchaient en joue les représentants du peuple, il dit, en souriant, à Madier de Mongeau, « Demandez donc à Schœlcher ce qu'il pense de l'abolition de la peine de mort. » Schœlcher, comme moi, même à cette minute suprême, eut répondu qu'il faut l'abolir. Dans une autre barricade, Bastide, forcé de s'absenter un moment, posa sa pipe sur un pavé. On trouva la pipe de Bastide, et on le crut mort. Il revint. La mitraille pleuvait, il dit « Ma pipe ?» Il la ralluma et se remit à combattre. 2 balles trouèrent son manteau. Quand les barricades furent construites, les représentants républicains s'y répandirent et s'y distribuèrent. Presque tous les représentants de la gauche allèrent aux barricades, aidant soit à les bâtir, soit à les défendre. Outre le grand fait de la barricade Saint-Antoine, où Schœlcher fut si admirable, Esquirot alla à la barricade de la rue de Charonne, de Flotte au Panthéon et à la chapelle Saint-Denis, Madier de Mongeau à Belleville et rue Homère, Doutre et Pelletier à la mairie du 5e arrondissement, Brive rue Beaubourg, Arnaud de l'Ariège rue du Petit Reposoir, Viguier rue Pagevin, Versigny rue Joigneau, Dupont de Bussac au carré Saint-Martin, Carlos Forel et Boisset rue Rambuteau. Doutre reçut sur la tête un coup de sabre qui fendit son chapeau. Bourza eut 4 balles dans son paletot. Baudin fut tué. Gaston Dussoube était malade et ne put venir. Son frère Denis Dussoube le remplaça. Où ? Dans le sépulcre. Baudin tomba sur la première barricade. Denis Dussoube sur la dernière. Je fus moins favorisé que Bourza. Je n'eus dans mon paletot que 3 balles. Et il m'est impossible de dire d'où elles me vinrent, probablement du boulevard. Après la bataille perdue, il n'y eut pas de sauve-qui-peut, pas de déroute, pas de fuite. Tous restèrent cachés dans Paris, prêts à reparaître. Michel, rue d'Alger, moi, rue de Navarin. Le comité tint encore séance le samedi 6, à 11 heures du soir. Jules Favre, Michel de Bourges et moi, nous nous vîmes dans la nuit chez une généreuse et vaillante femme, Madame Didier. Bastide y vint et me dit « Vous allez, si vous n'êtes pas tué ici, entrez dans l'exil. Moi, je resterai à Paris. Prenez-moi pour lieutenant. » J'ai dit ce fait. On espérait pour le 9, le mardi, une reprise d'armes qui n'eut pas lieu. Mallarmé l'avait annoncé à Dupont de Bussac. Mais le coup du 4 avait atterré Paris. La population ne bougea plus. Les représentants ne se décidèrent à songer à leur sûreté et à quitter la France, à travers mille dangers d'ailleurs, que plusieurs jours après, quand la dernière étincelle de résistance fut éteinte dans le cœur du peuple, et la dernière lueur d'espérance dans le ciel. Plusieurs représentants républicains étaient ouvriers. Ils sont redevenus ouvriers dans l'exil. Nadeau a repris la Truelle et Émasson à Londres, Faure, Durosne, Coutelier et Bancette, cordonnier, sentent que leur métier est devenu leur devoir et le pratiquent en Angleterre. Faure fait des couteaux, Brancette fait des souliers, Grépeau est tisserand. C'est lui qui, proscrit, a fait la robe de couronnement de la reine Victoria. Sombre sourire de la destinée. Noël Parfait, correcteur d'imprimerie à Bruxelles. Agricole Perdiguier, dit Avignonet-la-Vertu, a ceint son tablier de cuir et menuisier à Anvers. Hier, ces hommes siégeaient dans l'assemblée souveraine. On voit de ces choses-là dans Plutarque. L'éloquent et courageux proscrit, Émile Deschanel, a créé à Bruxelles, avec un rare talent de parole, une nouvelle forme d'enseignement public, les conférences. C'est à lui que revient l'honneur de cette fondation, si féconde et si utile. Disons-le en terminant, l'Assemblée nationale législative vécut mal et mourut bien. À ce moment de la chute, irréparable pour les pusillanimes, la droite fut digne, la gauche fut grande. On n'avait pas encore vu dans l'histoire un parlement tomber de cette façon. Février avait soufflé sur les députés du pays légal, et les députés s'étaient évanouis. M. Sauzet s'était affaissé derrière la tribune et s'en était allé sans même prendre son chapeau. Bonaparte, l'autre, le premier, le vrai, avait fait enjamber les fenêtres de l'orangerie de Saint-Cloud aux 500, un peu embarrassés de leur grand manteau. Cromwell, le plus ancien des Bonaparte, quand il fit son 18 Brumaire, n'avait guère rencontré d'autre résistance que quelques imprécations de Milton et de Ludlow, et avait pu dire, dans son langage grossièrement gigantesque, « J'ai mis le roi dans mon sac et le Parlement dans ma poche. » Il faudrait remonter jusqu'au Sénat romain pour y trouver de vraies chaises curules. La législative, répétons-le à son honneur, fit bonne contenance devant l'abîme. L'histoire lui en tiendra compte. Après avoir trahi tant de choses, on pouvait craindre que cette assemblée ne finît par se trahir elle-même. Il n'en a rien été. L'assemblée législative, on est bien forcé de le rappeler, avait commis faute sur faute. La majorité royaliste y avait persécuté bien odieusement la minorité républicaine, qui faisait vaillamment son devoir en la dénonçant au peuple. Elle avait eu, cette assemblée, une bien longue cohabitation, une complicité bien fatale avec l'homme de crime qui a fini par l'étrangler comme un voleur étrangle sa concubine dans son lit. Mais, quoi qu'on puisse dire de cette assemblée fatale, elle n'a pas eu l'évanouissement misérable que Louis Bonaparte espérait. Elle n'a pas été lâche. Cela tient à ce qu'elle sortait du suffrage universel. Disons-le, car c'est là un enseignement. La vertu de ce suffrage universel qui l'avait engendré et qu'elle avait voulu tuer, elle l'a senti en elle à sa dernière heure. La sève de tout un peuple ne se répand pas vainement dans une assemblée, même la plus caduque. Au jour suprême, cette sève se retrouve. L'assemblée législative, si chargée qu'elle soit de responsabilités redoutables, sera moins accablée peut-être qu'elle ne le mériterait par la réprobation de l'avenir. Grâce au suffrage universel qu'elle avait trahi et qui fit sa foi et sa force au dernier moment, grâce à la gauche qu'elle avait opprimée, bafouée, calomniée et décimée, et qui jeta sur elle le reflet glorieux de son héroïsme. Cette assemblée chétive a eu une grande mort. 4.18. Page écrite à Bruxelles. Eh bien oui, je donnerai un coup de pied dans la porte de ce palais, et j'y entrerai avec toi, histoire. Je saisirai au collet tous ces coupables en flagrant délit perpétuel de tous ces attentats. J'éclairerai brusquement du plein midi de la vérité cet antre de nuit. Oui, je ferai le jour, j'arracherai le rideau, j'ouvrirai la fenêtre, je montrerai à tous les yeux tel qu'il est, infâme, horrible, opulent, triomphant, joyeux, doré, souillé, cet Élysée, cette cour, ce groupe, ce tas. Appelez cela comme vous voudrez, cette chiourme où rampe et grouille et s'accouple et se féconde toutes les turpitudes, toutes les indignités, toutes les abominations, flibustiers, boucaniers, jureurs de serments, faiseurs de signes de croix, espions, escrocs, bouchers, bourreaux, depuis le condottiere qui vend son épée jusqu'au jésuite qui brocante son bon Dieu. Cette sentine où baroche coudoie teste, où chacun apporte ses malpropretés, Magnan ses épaulettes, Montalembert sa religion, Dupin sa personne. Et surtout le cercle familier, le saint des saints, le conseil privé, la caverne intime où l'on boit, où l'on mange, où l'on rit, où l'on dort, où l'on joue, où l'on est grec, où l'on tutoie l'altesse, où l'on se vautre. Oh, quelles ignominies! C'est là, le déshonneur, la turpitude, la honte et l'opprobre sont là. Oh, histoire, un fer rouge sur toutes ses faces. C'est là qu'on s'amuse et qu'on ripaille, et qu'on se gave et qu'on se moque de la France. C'est là qu'on empoche pêle-mêle, avec de grands éclats de rire, les millions de louis et les millions de votes. Voyez-les, regardez-les. Ils ont traité la loi comme une fille. Ils sont contents. Le droit est égorgé, la liberté est bâillonnée, le drapeau est déshonoré, le peuple est sous leurs pieds. Ils sont heureux. Et qui sont-ils? Quels sont ces hommes? L'Europe ne le sait. On les a vus un beau matin sortir d'un crime. Rien de plus. Un tas de drôles qui ont eu beau devenir célèbres et qui sont restés anonymes. Tenez, ils sont tous là. Voyez-les, vous dis-je. Regardez-les, vous dis-je. Reconnaissez-les, si vous pouvez. De quel sexe sont-ils? À quelle espèce appartiennent-ils? Qu'est celui-ci? C'est un écrivain? Non, c'est un chien. Il mâche de la chair humaine. Et celui-là, est-ce un chien? Non, c'est un courtisan. Il a du sang à la patte. Homme nouveau, c'est ainsi qu'il s'appelle. Nouveau, en effet. Inattendu, étrange, inouï, monstrueux. Le parjure, l'iniquité, le vol, l'assassinat, érigés en département ministériel. L'escroquerie appliquée au suffrage universel. Le gouvernement parle faux, le devoir appelé crime, le crime appelé devoir, le cynisme riant dans l'atroce. C'est de tout cela qu'ils composent leur nouveauté. Maintenant c'est bien, ils ont réussi, ils ont le vent en poupe, ils s'en donnent à cœur joie. On a triché la France. On partage. La France est un sac, et l'on y met la main. Fouillez, pardieu, prenez pendant que vous y êtes, pêchez, puisez, pillez, volez. L'un veut de l'argent, l'autre des places, l'autre un cordon au cou, l'autre une plume au chapeau, l'autre une broderie à la manche, l'autre des femmes, l'autre du pouvoir, l'autre des nouvelles pour la bourse. L'autre, un chemin de fer, l'autre, du vin. Je crois bien qu'ils sont contents. figurez-vous un pauvre diable qui, il y a 3 ans, empruntait 10 sous à son portier, et qui aujourd'hui, accoudé voluptueusement sur le moniteur, n'a qu'à signer un décret pour prendre 1 million. Se rendre eux-mêmes parfaitement heureux, dévorer à même les finances de l'État, vivre aux dépens du trésor en fils de famille, cela s'appelle leur politique. Leur ambition a un vrai nom, c'est de la gloutonnerie. Eux, ambitieux, bah, ils sont gloutons. Gouverner, c'est jouir. Cela n'empêche pas de trahir, au contraire. On s'entre-espionne, on s'entre-trahit. Les petits traîtres trahissent les grands traîtres. Piétry louche vers Maupas et Maupas vers Carlier. Bouge, hideux. On y fait le coup d'État en commun, voilà tout. Du reste, on n'y est sûr de rien, ni des regards, ni des sourires, ni des arrière-pensées, ni des hommes, ni des femmes, ni du valet, ni du prince, ni des paroles d'honneur, ni des actes de naissance. Chacun se sent frauduleux et se sait suspect. Chacun a des intentions secrètes. Chacun sait tout seul pourquoi il a fait cela. Pas un ne dit le mot de son crime, et personne ne porte le nom de son père. Ah, que Dieu me prête vie, et que Jésus me pardonne. Je dresserai un gibet haut de 100 coudées, je prendrai des clous et un marteau, et je crucifierai ce beau harnais, dit Bonaparte, entre ce Leroy, dit Saint Arnaud, et ce Fialin, dit Persigny. Et je vous y traînerai aussi, vous tous, complices, ce Morny, ce Romieux, ce Fulde, sénateur juif, ce Delangle qui porte sur son dos cet écriteau, la justice, et ce Trollon, légiste glorificateur de la violation des lois, juriste consulte apologiste du coup d'État, magistrat flatteur du parjure, juge panégyriste du meurtre, qui s'en ira à la postérité, une éponge pleine de sang et de boue à la main. J'engage donc le combat. Avec qui? Avec le dominateur actuel de l'Europe. Il est bon que ce spectacle soit donné au monde. Louis Bonaparte, c'est le succès, c'est le triomphe enivré, c'est le despotisme gai, féroce, s'épanouissant dans la victoire. C'est la plénitude folle du pouvoir, se cherchant des bornes et ne s'en trouvant pas, ni dans les choses, ni dans les hommes. Louis Bonaparte tient la France, urbem, romam, abet. Et qui tient la France, tient le monde. Il est maître des votes, maître des consciences, maître du peuple. Il nomme son successeur, règne à jamais sur les scrutins futurs, dispose de l'éternité et met l'avenir sous pli cacheté. Son Sénat, son corps législatif, son Conseil d'État, têtes baissées et mêlées derrière lui, lui lèche les talons. Il mène en laisse les évêques et les cardinaux. Il marche sur la justice qui le maudit et sur les juges qui l'adorent. 30 correspondances informent le continent qu'il a froncé le sourcil, et tous les télégraphes électriques tressaillent s'il lève le petit doigt. On entend autour de lui le froissement des sabres et les tambours battent au champ. Il siège à l'ombre de l'aigle, au milieu des baïonnettes et des citadelles. Les peuples libres tremblent et cachent leur liberté de peur qu'ils ne les leur volent. La grande République américaine elle-même hésite en sa présence et n'ose lui retirer son ambassadeur. Les rois entourés d'armées le regardent en souriant, le cœur plein d'épouvante. Par où commencera-t-il? Par la Belgique? Par la Suisse? Par le Piémont? L'Europe s'attend à être envahie. Il peut tout et il rêve tout. Eh bien, ce maître, ce triomphateur, ce vainqueur, ce dictateur, cet empereur, ce tout-puissant, un homme seul, errant, dépouillé, ruiné, terrassé, proscrit, se lève devant lui et l'attaque. Louis-Napoléon a 10 000 canons et 5 000 soldats. L'écrivain a sa plume et son encrier. L'écrivain n'est rien. C'est un grain de poussière. C'est une ombre. C'est un exilé sans asile. C'est un vagabond sans passeport. Mais il a à ses côtés, et combattant avec lui, deux puissances. Le droit, qui est invincible, et la vérité, qui est immortelle. Certes, pour cette lutte à outrance, pour ce duel redoutable, la Providence aurait pu choisir un champion plus illustre, un plus grand athlète. Mais qu'importent les hommes, là où c'est l'idée qui combat. Tel qu'il est, il est bon, disons-le, que ce spectacle soit donné au monde. Qu'est-ce que cela, en effet ? C'est l'intelligence, atome, qui résiste à la force, colosse. Je n'ai qu'une pierre dans ma fronde, mais cette pierre est bonne. Cette pierre, c'est la justice. J'attaque Louis Bonaparte à cette heure où il est debout, à cette heure où il est maître. Il est à son apogée, tant mieux, c'est ce qui me convient. Oui, j'attaque Louis Bonaparte, je l'attaque à la face du monde, je l'attaque en présence de Dieu et des hommes, je l'attaque résolument, éperdument, pour l'amour du peuple et de la France. Il va être empereur, soit, que du moins il y ait un front qui résiste. Que Louis Bonaparte sache qu'on prend un empire, mais qu'on ne prend pas une conscience. 4.19 Bénédiction infaillible. Le pape approuva. Quand les courriers apportèrent à Rome cet événement du 2 décembre, le pape alla à une revue du général Gémeaux et le pria de féliciter de sa part le prince Louis-Napoléon. Il y avait un précédent. Le 12 septembre 1572, Saint-Goard, ambassadeur du roi de France Charles IX, près du roi d'Espagne, Philippe II, écrivait de Madrid à son maître Charles IX. La nouvelle des événements du jour, Saint-Barthélemy, est arrivée au roi catholique. Il en a montré, contre son naturel et coutume, tant d'allégrie qu'il a fait plus manifeste que de toutes les bonnes aventures et fortunes qui lui vinrent jamais. De manière que je le fus trouvé le dimanche matin à Saint-Hiéronyme, et étant arrivé près de lui, il se prit à rire, et avec démonstration d'un extrême plaisir et contentement, commença à louer Votre Majesté. Note. Archive de la Maison d'Orange. Supplément, page 125. Fin de note. La main de Pie IX resta étendue sur la France, devenue l'Empire. Alors, à l'ombre de cette bénédiction, commença une ère de prospérité.